BW. Vue d'Allemagne.
Pas d'écoliers dans les rues au petit matin, des cloches qui sonnent dans le vide, drôle de rentrée après les vacances de Noël en Allemagne. Les écoles, collèges et lycées restent fermés au moins jusqu'à la fin janvier pour cause de pandémie. L'école, c'est donc à la maison en ce moment, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Dans la deuxième partie de ce magazine, nous vous emmenons dans la ville fantôme de Varosha, abandonnée il y a plus de 46 ans lors de la division de l'île de Chypre. Un voyage dans le passé avec notre correspondant Thomas Jacobi. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Letouzé au micro. Willkommen et bienvenue. Un matin de janvier dans une famille à Cologne, grande ville de l'ouest de l'Allemagne. Les deux parents sont en télétravail, l'un dans le salon, l'autre dans la cuisine. Dans sa chambre, la fille adolescente suit un cours de chimie sur Teams, un outil de communication en ligne, tandis que le fils de 10 ans, en dernière année de primaire, a une réunion sur Skype avec sa classe avant de se connecter à la plateforme Logineo pour télécharger ses devoirs. Ça, c'est la situation chez moi au moment où j'écris ce magazine. Pour l'instant, la connexion Internet et les systèmes de communication semblent tenir le coup, mais nous avons de la chance. Dans le sud-ouest de l'Allemagne, à Kaiserslautern, Eric Grabowski, 15 ans, aurait dû avoir cours de français ce matin, mais cela n'a pas marché parce que les serveurs informatiques étaient surchargés. Le cours a été annulé. Alors pour Eric, le homeschooling ne fonctionne pas vraiment comme prévu.
Il faut résoudre les problèmes de serveurs. Cela ne peut pas continuer comme ça. On ne sait même pas si on pourra retourner à l'école en février. Il faut vite résoudre les problèmes liés à l'enseignement numérique.
Le lycée d'Eric n'est pas le seul à rencontrer des difficultés avec l'enseignement à distance, loin de là. On retrouve ces problèmes un peu partout en Allemagne. Le pays semble encore à la traîne en matière d'enseignement numérique, et ce, près d'un an après le début de la pandémie de coronavirus et 9 mois après les premières fermetures d'écoles en mars 2020. Il y a pourtant un pacte numérique qui doit permettre aux écoles allemandes de se mettre à la page. Le gouvernement a débloqué pour cela environ 7 milliards d'euros. Mais comme souvent en Allemagne, les procédures administratives sont compliquées. C'est ce que nous confirme Nina Brandau du Bitkom, l'association allemande de l'industrie des technologies de l'information et des télécommunications.
Il faut du temps pour que ces fonds atteignent les écoles. Les démarches sont incroyablement bureaucratiques. Les autres pays réussissent mieux à gérer cela.
Avant la pandémie, on comptait environ 6 ordinateurs pour 10 élèves dans les écoles allemandes. Selon les chiffres 2018 de l'OCDE, le taux d'équipement est meilleur dans d'autres pays industrialisés, avec en moyenne 9 ordinateurs pour 10 élèves. Depuis les premières fermetures d'écoles, de nombreux établissements se sont concentrés sur l'acquisition d'ordinateurs portables et de tablettes. L'école primaire de mon fils a pu ainsi obtenir 60 tablettes pour 250 élèves. Commandées en mai, elles sont arrivées en novembre et elles n'ont toujours pas été distribuées parce qu'il faut encore installer des programmes dessus. Et cela, ce sont les écoles qui doivent s'en charger, qu'elles aient les compétences techniques ou pas. Le lycée d'Eric Grabowski, lui, a reçu 120 ordinateurs portables à l'automne. Ils ont été distribués aux élèves qui n'avaient pas d'équipement à la maison, mais l'équipement à lui seul ne suffit pas, souligne Nina Brandau.
Il faut aussi que les enseignants sachent manier les appareils et les outils numériques et en tirent une réelle valeur ajoutée pédagogique. Nous avons besoin pour cela de formations complémentaires et de la préparation des futurs enseignants à utiliser ces outils. Il y a tout simplement beaucoup de rattrapage à faire.
Alors un autre problème rencontré, c'est le manque de connexion Internet rapide et fiable. Il n'y a pas que dans les régions rurales d'ailleurs que c'est un problème. Le collège de ma fille, par exemple, donc à Cologne, une grande ville, n'a pas de Wi-Fi dans les salles de classe. Les enseignants ne peuvent donc pas faire cours à distance en direct pour les élèves depuis l'établissement. Et je ne parle pas des élèves qui n'ont pas forcément Internet à la maison. Alors on le voit, l'Allemagne n'est vraiment pas en pointe en matière d'enseignement numérique. En Europe, les pionniers, ce sont le Danemark, l'Estonie ou encore la Finlande et les Pays-Bas. Mais même ces pays ont été pris de court par la pandémie de coronavirus et ses conséquences. C'est ce qu'explique le chercheur Jesper Tekke. Il est spécialiste des médias à l'université d'Aarhus au Danemark.
Les enseignants ont du mal à s'adapter au monde des médias numériques. Il y a beaucoup de peur.
Le gouvernement danois a beau avoir investi beaucoup d'argent dans les équipements informatiques pour les écoles, cela ne suffit pas, explique encore Jesper Tekke.
Les enseignants ont des tableaux blancs numériques, des réseaux, des ordinateurs et tout le reste. Mais il y a trop peu d'investissements pour de nouveaux formats éducatifs qui fonctionnent dans l'espace numérique.
Les études menées par Jesper Tekke montrent que 8 élèves de primaire sur 10 n'ont pas vraiment suivi de cours en ligne pendant la première fermeture des écoles. Ils ont reçu des devoirs à imprimer et à faire tout seuls. C'est exactement la même chose en Allemagne. Les difficultés techniques, mais aussi la réticence de certaines familles, sont également des freins au développement de l'enseignement numérique. Alors, dans de nombreux pays européens, les élèves, enseignants et parents envisagent les prochaines semaines, les prochains mois peut-être avec inquiétude. La crainte est grande en effet de voir en particulier les enfants des familles les plus pauvres décrocher de l'école si les établissements restent fermés trop longtemps. L'apprentissage numérique reste un défi, même dans les pays les plus nantis. Allemagne, deuxième partie, et c'est un voyage dans le temps que notre correspondant Thomas Jacobi a effectué sur l'île de Chypre. En 1974, la cité balnéaire de Varosha avait dû être abandonnée par ses habitants, contraints à l'exil après l'arrivée des troupes turques. Située dans la partie nord de l'île, la ville a été interdite d'accès pendant 46 ans. Son littoral a été rouvert au public en octobre dernier et les anciens habitants de Varosha ont pu alors revoir de loin ou de près la carcasse de cette ville fantôme et leur maison envahie par la végétation. Un voyage douloureux dans le passé que nous raconte donc Thomas Jacobi dans ce reportage.
Dès que cela était possible, Yanis Toumazis, la cinquantaine, s'est précipité à Varosha, la ville où il est né et où il a grandi. Il n'a pas pu voir sa maison dont le quartier était encore interdit par l'armée turque, mais il est entré, par effraction, dans le cinéma où il passait enfant tous ses dimanches après-midi. Il s'y est filmé alors que la police rappelait qu'il était interdit d'y entrer, et là, tous les souvenirs refoulés, toutes ces décennies sont revenus.
Chaque dimanche après-midi, on se retrouvait ici. On achetait des sandwichs, des sucreries et on s'installait pour voir des films. Le premier était grec, la plupart du temps. Le deuxième, étranger. On voyait les meilleurs films, on adorait ça. C'était la sortie du dimanche après-midi et on restait ici jusqu'à 5 heures. C'est juste incroyable, c'est trop. Je suis bouleversé, je n'y arrive pas.
Plus loin, Pavlo Siakov, lui, a pu entrer dans la maison où il était né. Là aussi, les larmes et la douleur étaient au rendez-vous.
Je suis juste devant ma maison. Là, on rentre dans notre appartement privé. Ici, la chambre de ma grand-mère et de ma sœur. Et puis, ma chambre à moi.
Yanis et Pavlos ont dû fuir en août 1974 avec les 40 000 autres habitants de Varosha, les bombardements et l'avancée des troupes turques. Ils avaient quitté une ville prospère, cosmopolite, avant-gardiste, et ils ont retrouvé une ville morte, éventrée, entourée de barbelés, une succession de carcasses de maisons entièrement pillées et ravagées. Pavlos Yakovou et Anna Marangou ont porté l'affaire de la ville morte de Varosha à la Cour internationale des droits de l'homme. Ils veulent retourner chez eux, ils y croient dur comme fer, surtout Anna.
Για την ώρα η αμόχωστος δεν έχει χρήστες των περιουσιών μας. Jusqu'à présent, la ville de Varosha n'a pas d'habitants qui occupent nos propriétés. Si elles étaient habitées, ça changerait complètement la donne. C'est pourquoi nous devons nous protéger par cette voie légale offerte. Il n'est pas question que nous vendions nos propriétés, on veut les récupérer.
De l'autre côté de la ligne verte, les Chypriotes turcs se battent aussi pour sauver Varosha. Serdar Aytan, qui a grandi près de Varosha, est un militant de la première heure. Ses souvenirs aussi lui font mal.
Mes parents ont passé leurs meilleures années à Varosha. Ils étaient à l'hôtel King George, dans les cafés et restaurants pendant leurs fiançailles et en tant que jeunes mariés. Je me souviens, quand on était petit en fin d'après-midi, papa nous emmenait en voiture faire un tour au bord de la mer à Varosha et on avait droit à une glace.
Pourtant, malgré tout, il rêve d'une Varosha réunifiée et il milite fort pour cela.
L'idée avait été d'ouvrir Varosha comme un geste pour créer la confiance avec les Chypriotes grecs. Ça aurait pu être un catalyseur en vue d'une solution viable. Tout cela en reconstruisant la ville, en la réanimant, en transformant le port commercial en un port touristique et finalement en mettant en valeur la substance architecturale, la ville jumelle médiévale de Famagouste, en l'intégrant dans l'héritage culturel de l'UNESCO. Je suis encore persuadé que ce serait une grande chance si ça pouvait se faire. Mais la grande question est, qui va convaincre Erdogan de le faire?
Malgré le vote contraire de l'ONU et la colère de l'Union européenne, le président turc Tayyip Recep Erdogan a décidé d'ouvrir Varosha. Pour l'avenir de Chypre, il veut désormais la solution de deux États séparés, alors que jusqu'à présent, il était question d'une fédération bisonnaire. Officiellement, Varosha a été rattachée à la municipalité de Konya sur le continent turc, telle une annexion qui ne porte pas son nom. Mais Serdar, Yanis, Anna et Pavlos ne baissent pas les bras. Pour eux, le combat pour une Varosha bicommunautaire continue.
Et les députés européens ont fait part fin novembre de leur désaccord face à la politique de la Turquie à Varosha. Dans une résolution, ils ont estimé que l'ouverture partielle de la ville compromettait les perspectives d'une solution globale au problème chypriote. Nous continuerons bien sûr à suivre ce dossier avec notre correspondant Thomas Jacobi. Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci donc à Thomas Jacobi pour son reportage et merci aussi à Peter Hille pour le sujet sur l'enseignement numérique. Merci bien sûr également à vous de nous suivre toujours fidèlement. Et si ce magazine vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tous les numéros de Vue d'Allemagne sont disponibles dans la médiathèque de notre site dw.com/français. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotta-Talon. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !